Alors, je voulais commencer par un petit témoignage. Il y a Élie qui va me faire les gros yeux à un moment. Voilà. Un témoignage personnel pour lancer un peu cette question qui vous allez le voir, m'encombre depuis des années, la question de la transformation de nos vies, en particulier du lien qu'on a entre nous dans l'époque telle qu'on est en train de la vivre aujourd'hui. En gros, il y a 20 ans, j'étais jeune adulte et je commençais à me dire que... Salut! Je commençais à me dire que le monde tournait vraiment pas rond et qu'on allait vers quelque chose qu'on connaissait pas, mais qui était assez imprévisible et assez effrayant. Et du coup, je me disais, avec les copains avec lesquels j'étais, qui partageaient les mêmes idées que moi, moi je me disais, mais forcément, on va changer les façons, enfin, on va pas rentrer dans un mode de vie conventionnel, on va trouver d'autres façons de vivre pour se dégager des leviers d'action qui nous permettent de réagir par rapport à ce qui nous arrive, quoi. J'imaginais pas qu'on puisse suivre les chemins plus ou moins conventionnels, en fait, qui, de mon point de vue, limitaient forcément les degrés de liberté et d'action. Et en fait, les copains, ils sont mariés, ils ont trouvé un boulot, ils ont choisi des modes de vie qui finalement étaient assez classiques. Et je me suis retrouvé un peu tout seul avec mes grandes idées. Et puis 10 ans plus tard, il y a eu un peu la même chose justement avec Élie et la bande là, où pareil, j'avais trouvé des amis avec qui je me disais, oh, on est encore en résonance sur le constat, et donc forcément, on va être en résonance aussi sur les choses à mettre en œuvre. Alors, on aurait voulu commencer à créer des lieux de vie un peu collectifs. Et moi-même, j'étais plein de peur à l'époque, donc j'ai ma part de responsabilité si ça s'est pas fait. Mais toujours est-il que, nouvel échec, on avait encore pas changer, transformer nos façons de vivre. Et puis voilà. Après, j'ai eu des soucis de santé pendant pas mal d'années. Et puis voilà, là, ça va mieux. Du coup, je suis encore avec ma grande idée, un peu comme, je ne sais plus comment il s'appelle, un espagnol, là. Bon, bref, qui cherchait des moulins et tout ça, là. Ouais, Don Quichotte, voilà. Toujours, je reviens et voilà. Et donc, on est là ce soir. Et donc, avec cette question, quoi. Si l'état du monde est ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on fait structurellement, voilà, et dans le lien entre nous. Alors, en fait, il y aurait donc sur cette l'apport que je vous propose, il y aura un temps de constat assez rapide, un temps pour dire les solutions. Qu'on a actuellement en face de ces constats, et puis un temps plus long pour parler d'autres solutions, notamment avec fondées sur le pape François. Donc c'est quand même sérieux. C'est pas juste mon petit avis. Alors le constat en 3 points. Le premier point, on est source de violence dans le monde. Alors je sais pas si quand je dis ça, en quoi ça fait écho, s'il y en a qui ressemblent, qui sont violents pour le monde à certains points de vue. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ça serait quoi, par exemple? C'est vrai que j'avais dit que je parlais tout le temps, puis en fait, je vous donne la parole. Mais faut choisir. C'est pas pour des questions, c'est juste pour... Non, mais ouais, bon, alors je fais mon monologue. Allez, j'avais dit que ça serait hésitant. Oui, c'est ça. Ben, en fait, on en est tous au courant, bien sûr. On peut pas faire grand-chose sans pétrole pour se vêtir, pour se déplacer. On peut pas faire grand-chose sans nos téléphones, même s'il y en a qui s'en passent. On peut pas... À tous les niveaux, en fait, dans tous les domaines de notre vie, on est amené à nuire à la création, pour parler que de la création, mais aussi à nuire aux frères et sœurs humains à l'autre bout du monde, qui sont dans les mines ou ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans l'histoire humaine, et donc c'est quand même, voilà, c'est une première pierre qui est pas évidente. Le pape François, il dit, les évêques de Nouvelle-Zélande se sont demandé ce que le commandement « tu ne tueras pas » signifie quand 80% de la population mondiale consomme les ressources de telle manière qu'ils volent aux nations pauvres et aux futures générations ce dont elles ont besoin pour survivre. Voilà, donc premier point du constat, on est source de souffrance pour le monde. Deuxième point, on souffre nous-mêmes. Et ça, en fait, c'est peut-être moins évident. Enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est très évident. Il y a des gens pour qui ça l'est peut-être moins. Mais j'ai fait toute une petite liste. Je peux vous en proposer certains bouts. Déjà, faire souffrir, c'est une souffrance, parce qu'on n'est pas sur Terre. Dieu, si on est croyant, ne nous a pas placés sur Terre pour qu'on détruise sa création, mais plutôt pour qu'on y contribue. Donc, en soi, déjà, le premier point que je disais, on est source de souffrance. Bah, déjà, c'est une souffrance d'être source de souffrance. Et après, pêle-mêle, en fait, pour des gens, trouver un travail qui sera porteur de sens et source de rémunération, ben, c'est pas évident. C'est une souffrance. Répondre aux injonctions de perfection, pardon, qu'on nous inflige sur Instagram ou quoi, ou même dans la société en général, c'est une souffrance. Désapprendre les comportements déviants que la société nous a apprises, bah, c'est pas facile non plus. On peut aimer consommer, il y a la publicité partout, il y a le tabac, il y a le patriarcat qui a mis des choses en nous, la vie hors sol dans les villes, etc. Toutes les addictions diverses, je sais plus si je l'ai dit déjà. Il y a des gens pour qui la santé, et même sûrement beaucoup de gens pour qui la santé est impactée par toutes les cochonneries de notre temps. Pour certains, ils se demandent s'ils doivent être parents ou non. C'est quand même pas une question anodine pour l'équilibre des personnes d'en venir à se poser ces questions-là. Voilà. Et la liste est sûrement très longue encore. Donc, on est source de souffrance, on souffre. Et le troisième point, et après ça arrête d'être glauque, je vous promets, c'est, mais il est glauque quand même celui-là, on va vers le pire. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on connaît actuellement. Et on sait, pour l'entendre au moins, qu'on est sur une pente qui est descendante, et on parle d'effondrement même, qui serait comme des ruptures de pente. Donc, voilà. Et on sait. Alors, il me semble que sur ce point-là, on a comme un problème de croire à ce qu'on sait. C'est-à-dire que actuellement, dans les magasins, il y a toujours à manger. On a de l'électricité quand on branche le téléphone et tout ça. Du coup, c'est des réalités dont on n'a pas réellement la. Il y a personne assez vieux ici pour avoir connu la guerre, au moins la Deuxième Guerre mondiale. Mais on n'a pas expérimenté ça pour l'instant, à part un peu le Covid, quoi. Donc en fait, ce qu'on s'apprête à vivre pour l'instant, on l'entend mais on le vit pas. Donc on l'incarne pas. Et là où du coup peut-être ce qui fait à mon expérience aussi, c'est que donc moi j'ai eu des soucis de santé qui m'ont beaucoup isolé socialement. Et en fait du coup une expérience de vie différente de celle habituelle. Je suis sûrement pas le seul ici à pouvoir témoigner de ça, mais j'ai eu l'impression d'expérimenter quelque chose de pas normal en fait déjà pendant plusieurs années, pendant une longue période. Et du coup je sais que le pas normal est probable, enfin peut arriver, quoi. Et donc peut-être que c'est aussi pour ça que je suis plus sensible à ça, je sais pas. En tout cas, voilà. Comment finir cette phrase ? Je sais pas trop. Voilà, en tout cas, bah si, je m'arrête sur le constat, parce qu'en fait, on est déjà probablement tous au courant. Mais j'avais besoin de repréciser ces points-là pour dire que c'est gros, quoi, ce qu'on a en face de nous. Que c'est pas du tout anodin. Et justement, en fait, face à ça, et j'ai beaucoup de respect pour moi-même, je suis un militant des causes environnementales et sociales, j'aime bien me nourrir de ces espaces de lutte, donc je suis pas spécialement contre, mais j'ai l'impression, enfin, notamment par exemple sur les réseaux Lutte et Contemplation, on voit passer beaucoup d'appels à des pétitions, à des boycotts des fois, enfin des choses, et puis des fois des choses quand même plus impactantes aussi, mais pardon, toujours, ces associations, ces groupes militants, ils pointent le regard en dehors d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les regards du groupe militant se focalisent vers l'extérieur. Ça peut être vers Total, ou vers ICOP, ou vers la pub de je sais pas qui, ou vers Trump. On se focalise vers l'extérieur. Et jamais, en fait, on regarde à l'intérieur de nous-mêmes pour voir ce qui s'y passe. J'ai un exemple qui est assez frappant. sur le groupe WhatsApp, le groupe plutôt Échange Libre de lutte et contemplation. Il y avait des discussions sur... Il y a plein de discussions. Il y avait des discussions un peu sur ce sujet-là, en fait. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, moi, en fait, ce qui m'aide, c'est me rappeler la parole de telle ou telle sainte et de me dire que, voilà, je fais bien, je fais de mon mieux dans ma réalité et ça, ça m'aide. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je me suis dit, en fait, c'est ça la limite actuelle de notre ambition militante sur notre intériorité, en fait. C'est, on crée un espace où les gens peuvent dire comment ils gèrent chacun leur désarroi individuellement dans leur vie. Et c'est ça actuellement qui est proposé. Mince. Bon. Et du coup, c'est là où j'ai envie de mettre en regard ce que j'ai dit juste à l'instant sur on est sur de nuisances, enfin de souffrances, on souffre et on va vers un pire qu'on connaît pas, donc qui a l'air pas cool. Ça, c'est voilà le constat. Et en face, bah, j'ai l'impression que le compte n'y est pas. Donc, d'où la soirée de ce soir, quoi, tout simplement. Ça vous parle pour l'instant ou je parle hébreu? Non, c'est bien.
Ouais, peut-être qu'il parle hébreu. Pour vous, Cherné, vous êtes d'une base déjà non violent.
Oui.
De par votre philosophie.
J'essaye, oui.
Et vous êtes anxieux.
Je ne suis pas spécialement anxieux.
Non.
Non.
Puisque vous semblez intérioriser beaucoup de. De contrariété,
ouais.
Et lié à l'environnement, à l'évolution du monde, à l'angoisse également que peuvent ressentir d'autres citoyens. Mais par contre, oui, vous cherchez une piste d'action.
En fait, c'est plutôt ça. En fait, je pense que naturellement, je trouve qu'il y a de quoi être anxieux. Peut-être que je suis de nature anxieuse, c'est probable, mais je trouve qu'il y a de la matière à être anxieux. Et justement, en fait, je combats l'anxiété en agissant, quoi. Et du coup, en agissant, alors soit en agissant de manière concrète sur des actions militantes, mais là, ce qui m'intéresse plus, c'est de me dire, c'est ça, comment on met en place des structures, quoi. Parce que les structures actuelles, je vais y revenir après, elles m'ont pas l'air opérantes, quoi. Voilà. Moi, je continue.
Oui, avec ça, je vous ferme.
Ah.
Moi, j'ai juste pas très bien compris la fin de ce que tu disais. Tu disais, en gros, on a des espaces pour exprimer des désarrois individuels, ouais. Mais pas collectivement, c'est ça?
Mais en fait, c'est. Alors, si, en fait, du coup, ça, on a des espaces pour exprimer pour exprimer comment on gère avec notre désarroi, enfin, comment on compose avec nos souffrances intérieures. Et c'est ça. En fait, les collectifs, ils regardent à l'extérieur d'eux-mêmes et le peu qu'ils font à l'intérieur, c'est qu'ils permettent un espace où on peut chacun dire comment on gère. Et c'est ça qui me semble trop étriqué comme espace, quoi. C'est ça que j'ai envie de dilater. Et justement, comment le dilater? Ah ah! Eh ben, la proposition du pape. Petit 3. Non, je sais pas. Et en fait, dans Laudato Si, que vous avez tous lu, il y a un petit espace qui parle de ce sujet-là, qui est court, mais qui est très intense pour autant. Et que je vais vous lire. C'est très court. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels. Bon, ça, on est d'accord. Voilà, les petits gestes. Mais j'ai zappé un truc, non? Ah non, c'est bon. Voilà. Donc voilà, ça, on est d'accord. Je pense. Ensuite, les exigences de cette œuvre seront si immenses que les possibilités de l'initiative individuelle et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes ne pourront y répondre. C'est-à-dire qu'il met dans le même sac les initiatives individuelles, qu'on a dit qu'elles étaient probablement pas suffisantes, et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes. Pour lui, c'est pas opérant, en fait. Et il continue. Seule une autre attitude provoquera l'union des forces et l'unité des réalisations nécessaires. Une autre attitude. Mais alors, du coup, c'est quoi cette autre attitude? Et à minima, sans avoir... il y a des pistes, hein, déjà, mais il me semble que, du coup, c'est une bonne question à se poser dans un collectif militant. C'est quoi cette autre attitude? Parce que si on ne se la pose pas, on reproduit forcément les schémas d'avant qui sont... Alors, on va revenir sur le mot individualiste, mais les principes individualistes qui ne pourront pas répondre. Voilà, il finit. La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. Et du coup, nous chrétiens, on connaît l'importance du mot conversion, quoi, qui est pas juste une transformation, qui est vraiment un retournement des pratiques, quoi, et pas que des pratiques, un retournement de l'être. Et du coup, voilà, comment on se pose la question de ça? Ouais, ça c'est dit. Alors juste un mot sur cette histoire d'individualisme, parce que ça va pas forcément de soi. En fait, il me semble qu'on est dans une époque qui a été influencée par l'époque précédente, et qu'il y a eu les Trente Glorieuses, où ça vous l'avez vécu, où... non, pas tous. Où en fait il y avait une espèce d'aspiration il y avait à profusion des biens de consommation, il y avait le pavillon individuel qui arrivait, il y avait la voiture individuelle, il y avait tout un tas de choses en fait qui coïncidaient avec les idées de l'époque qu'on se libérait, enfin qu'on devenait libre individuellement en fait.
Une jouissance individuelle. Ouais. Par l'acquisition des biens.
Ouais, c'est ça. Et du coup ça a été vrai dans les années 50, 60, 70. Et puis en fait depuis on s'est pris les chocs pétroliers, puis ensuite des crises. Et en fait, sans s'en rendre compte, parce que c'est des crises qui arrivent les unes après les autres discrètement, on n'est plus du tout dans le contexte des Trente Glorieuses, mais par contre, on a encore l'idéologie parce qu'on ne l'a pas remise en cause. Et c'est encore cette idéologie-là qui prime aussi, parce qu'elle colle assez bien avec peut-être des aspirations à l'intérieur de nous qui sont assez naturelles aussi. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, on en arrive à avoir. C'est pour ça que j'avais. Je sais plus si je vais retrouver mon petit. Voilà. Je laisserai. J'en ai imprimé juste un, mais j'ai écrit des petits trucs sur le sujet. Et il y en a un qui s'appelle Garde-t-on ses moufles en été, avec un monsieur qui s'apprête à jouer du violon et il transpire parce que c'est l'été et il a des moufles. En fait, c'était pour illustrer que. L'individualisme à une époque de crise comme aujourd'hui, c'est à peu près aussi pratique que des moufles pour jouer du violon l'été. C'est anachronique et ça n'a rien à faire là, quoi. Et du coup, ces principes individualistes qui pourront pas répondre aux problèmes, pour moi, ils viennent de là. Et maintenant, en fait, je pense que tout le reste du travail, il sera à faire ensemble, mais j'ai encore quelques petits mots à dire. On peut se poser la question, c'est quoi la substance de cette autre, alors, dont parle le pape, de cette autre attitude. Alors, en fait, pour commencer, un des premiers principes, ça pourrait être... si je pose la question pour commencer, est-ce que c'est inévitable, au début on disait on est source de souffrance, et on peut se demander si c'est inévitable, est-ce que l'être humain, aujourd'hui, doit nuire pour vivre ? Est-ce qu'on peut faire sans nuire ? On est assez vite tenté de se dire, pas évident, quoi. À moins d'être un ermite, etc., c'est vraiment pas évident. Et pourtant, si on pose cette même question à des gens il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 10 000 ans, ils comprendraient pas vraiment la question, en fait. De quoi ? On va pas abîmer la nature, ça marche. Enfin, et en fait, c'est les mêmes êtres humains il y a 10 000 ans, ou 1000 ans, ou 100 ans, et aujourd'hui. Et ce qui a changé, c'est la structure qui fait qu'on est amené à nuire. Pourra faire attendre.
Non, il y a 100 ans, je ne suis pas forcément sûr. Il y a 100 ans, on était déjà dedans. Enfin, il y avait déjà des gens qui avaient conscience.
Ouais, il y a 100 ans.
De la nuisance sur l'environnement. Sur...
200, 300. Ouais, avant la révolution industrielle. Oui, allez, oui, 1700.
1700. Ouais. Au moins deux pour remonter.
Genre. Ouais, ouais. Après, ce que je veux dire, c'est que le quotidien de nos vies, enfin, moi, j'y étais pas, mais de la vie des gens il y a 100 ans, il n'y avait pas du plastique dans les magasins, dans les grandes surfaces. Le quotidien était même dans les années 50. Il n'y avait pas de grandes surfaces. Il y avait pas de voitures. Il y avait énormément de choses qui étaient. Enfin, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que si c'est la structure société qui fait qu'à un moment donné, ce qui était absolument évident est devenu absolument impossible. Donc, c'est pour montrer la puissance des structures. comment elle façonne notre réalité, et que du coup, peut-être un des principes de l'autre attitude dont parle le pape, ce serait de créer des sous-structures qui fassent, en fait, comme à contre-courant, et qui fassent que dans ces sous-structures, il soit, on puisse essayer de retrouver, en fait, de manière vivable, parce que si on reproduit une structure qui arrive à faire que ce soit, enfin, qui arrive à recréer des conditions dans lesquelles on peut vivre sans nuire, en fait, chaque individu dedans, ben, il n'aura pas de mal à vivre sans nuire parce qu'il sera dans cette sous-structure-là, quoi. C'était Peter Morin qui disait faire une société où il serait plus facile d'être bon. Ça me parle beaucoup. Bref. Donc ça pourrait être un premier élément.
Plus, et facile, puis,
plus facile d'être bon. Alors après, il y a des formes multiples qui peuvent exister. Il y a des communautés, des lieux de vie, comme l'Arche de Lanza del Vasto. Il y a des tiers-lieux, comme le Dorothy à Paris. Donc ça peut être différent dans la forme, ça peut être différent graduellement aussi, ça peut être très intense ou ça peut être très léger. Mais j'ai l'impression que ce qui compte, c'est c'est ça, de réfléchir à d'avoir une visée, quoi, en fait, et de réfléchir à comment on avance peu à peu selon cette visée, avec un principe de regarder en soi pour aider dans la structure en question, dans les groupes militants, aider chacun à avancer dans cet axe-là, quoi. Voilà. Et juste, juste pour en reprenant un peu par rapport à en prenant pour exemple l'Arche de Lanza del Vasto, il m'a semblé qu'il y avait quatre éléments qui étaient intéressants, ce que ça produisait en fait, quatre éléments intéressants. Il faudra que j'arrête de parler bientôt parce que je bafouille. Premier élément, il m'a semblé qu'on était du coup moins nuisible, comme je disais à l'instant, parce que la mutualisation, parce que la vie simple, dans un collectif, les gens vivent ensemble et qui servent, du coup, sans aucune douleur, très peu de leur téléphone, c'est beaucoup plus facile que quand on est éclaté dans des tas de lieux différents et que, du coup, pour communiquer, forcément, on a besoin du téléphone. C'est aussi plus puissant. On l'a vu, Lanza, notamment par exemple sur la lutte du Larzac, il a pu, par la pratique quotidienne, un peu de la non-violence, etc., s'imprégner de cette culture-là et du coup avoir une vraie voix différente qui lui a permis d'agir vraiment de manière efficace. Et aussi, quand on mutualise, etc., on développe des leviers d'action beaucoup plus importants, que ce soit financier ou matériel ou au niveau du temps qu'on a à disposition. C'est aussi plus solide parce que c'était Benoît du Guenves qui disait mais le félin ne s'attaque pas à un troupeau mais à un individu isolé et donc en fait quand on est ensemble on est moins aussi sensible aux agressions par exemple à toutes les agressions qu'on a listées tout à l'heure quoi. De stress ou de besoin de gagner de l'argent ou de se débrouiller par soi-même quoi. Et puis le dernier point qui est pour moi le plus important, il n'est pas dans l'efficacité mais il est dans la, pour moi c'est aussi des chemins de croissance humain et ça part du principe que de considérer que le chemin de croissance aujourd'hui de la société actuelle qui nous oriente vers justement la technologie, l'accélération, la puissance, etc., c'est pas des chemins qui font vibrer notre âme humaine et chrétienne, et que du coup, créer d'autres structures, ça permet aussi de d'autres chemins de croissance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit là, ici? Et du coup, en fait, ouais, c'est ça que je trouvais aussi important à dire. On pourrait se dire, ah mince, le monde va mal, donc, bien obligé, il faut qu'on recrée autre chose, quoi, pour être plus fort. Mais en fait, ça c'est une vision un peu triste de voir les choses. À mon sens, c'est plutôt le monde va mal, mince. Du coup, on crée autre chose, mais en fait, c'est heureux tout ça. Pour moi, ce chemin-là, en fait, il n'est pas d'abord utile pour survivre ou utile pour lutter plus fort ou utile pour autre chose, mais il est d'abord un chemin de croissance intérieure, quoi. Qui est plus conforme avec l'Évangile qu'avec justement ce que nous propose la modernité. Voilà. Et du coup, alors avant le temps de clarification qui ouvrira sur les temps de groupe, je fais comme une petite introduction quand même sur ce travail. En fait, pourquoi faire ce travail ensemble? Pourquoi je propose une soirée où on parle de ça plutôt que le faire chacun de son côté? Parce qu'en fait, on peut me dire mais vas-y. Fais ton écolieu ou va où tu veux, Olivier, c'est bien, mais laisse-nous tranquille ce soir. Et en fait, bah oui, j'aimerais bien, en fait, mais je constate qu'il y a des freins en moi et des difficultés. Et en fait, on sait très bien que quand on est dans une société donnée, bah, il y a des tas d'habitudes, d'habitudes sociales qui sont intégrées en nous et qui peuvent être autant de freins à des transformations. Et que du coup, ces habitudes, ces comportements sociaux, c'est hyper difficile de les changer tout seul. On les change beaucoup plus facilement quand on a le miroir de l'autre en face et quand on constate que l'autre il a les mêmes difficultés et que du coup on trouve ensemble comment les lever. Et en fait, je trouve que c'est assez proche de des dynamiques féministes pendant longtemps. Disons, on peut faire un féminisme où c'est les femmes qui, de manière très intime, constatent pour elles-mêmes ce qui dysfonctionne dans la société et qui essaient de composer avec juste elles-mêmes ou dans des petits réseaux. Ou alors, on peut mettre ça, et c'est ce qu'elles ont fait et c'est très bien, on peut mettre ça sur la place publique et dire, en fait, il y a des vrais problèmes et c'est inscrit en nous tous. Et du coup, c'est un problème qu'il faut politiquement, ensemble, résoudre. Et je trouve que c'est un peu la même démarche, quoi. Il y a des biais individualistes en nous qui nous empêchent de transformer, de convertir, d'entrer dans cette conversion communautaire que le pape voit comme absolument nécessaire. Et du coup, posons ça sur la place publique, enfin au moins, voilà, et discutons-en entre nous. Voilà.